Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, les banques alimentaires sont débordées d'un bout à l'autre du pays. Il est plus que jamais utile de combattre le gaspillage alimentaire.
Chaque mois, en jetant de la nourriture, un foyer albertain, un foyer edmontonien, gaspille 148 $. Donc, il paye une facture de 148 $. Donc, en limitant notre gaspillage alimentaire, on va aussi être capable de réduire nos dépenses alimentaires. Et clairement, réduire le gaspillage alimentaire, c'est agir sur le plan économique. Donc, en limitant notre gaspillage, on va évidemment aussi agir pour la planète. Selon l'ONU, si on était capable, collectivement, à l'échelle du monde, de réduire notre gaspillage alimentaire, ne serait-ce que d'un quart, on serait capable de nourrir toute la population du monde.
Les Métis albertains ratifient leur nouvelle constitution. La nation métisse de cette province pourrait, à terme, voter son premier gouvernement métis de l'histoire. Et notre périscope nous en met plein la vue. On vous parle du prochain congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse.
C'est le 7e congrès mondial acadien. Fait qu'il y a comme un following là. On a comme des super fans. Tous les congrès laissent des legs. C'est vraiment à propos qu'est-ce qu'on laisse en arrière. Qu'est-ce qui est l'impact sur la communauté.
Et puis aussi de la rentrée culturelle 2023 à Fermont au Québec. On prend des nouvelles des territoires du Nord-Ouest, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Les Métis albertains viennent il y a quelques jours à peine de ratifier, d'adopter la Constitution des Métis. Près de 56 000 Métis de la province ont été appelés à se prononcer durant le mois de novembre sur cette Constitution et des 15 729 électeurs qui se sont présentés aux urnes, seuls 471 d'entre eux s'y sont opposés. Avec l'adoption de sa nouvelle constitution, la nation métisse de l'Alberta pourrait former des gouvernements et à terme dialoguer de nation à nation avec les gouvernements fédéral et albertain. Pour James Cardinal, président de la région numéro 1 des Métis de l'Alberta, la ratification de la Constitution des Métis est un jalon important vers l'autodétermination, un exemple que pourraient suivre les générations futures. La nation métisse de l'Alberta pense déjà à la prochaine étape, qui sera entre autres de former donc ce premier gouvernement métis de l'histoire du pays. Pour certains, l'adoption de la Constitution métisse a mis en lumière les divisions qui ont cours au sein de la communauté métisse de l'Alberta. Vincent Lavoie a rencontré le président de la région numéro 1 des Métis de l'Alberta, James Cardinal, qui a cependant répondu en anglais à ces questions.
L'adoption de la Constitution métisse la semaine dernière a révélé des divisions au sein de la communauté métisse de l'Alberta. Avec un taux de participation de 28 % et une écrasante majorité de 96 % de soutien, les résultats en ont fait sourciller plus d'un. Sur près de 15 000 bulletins de vote, seuls 471 électeurs ont voté contre. Les partis d'opposition ont demandé très vigoureusement au gouvernement fédéral d'arrêter le processus, mais aucune décision n'a été communiquée par le gouvernement. Mais James Cardinal, président de la région métisse numéro 1, basée à la Clabiche, n'a pas vu cette division. Environ 50 personnes ont voté le jour du scrutin, un succès selon lui.
Well, I feel that we had a great support in La Clabiche, because only counting on one day, and the one day that we had set up the election, that, you know, our local did it. We have 52 voters, and I know we had a lot of great supporters. And there's a few that would probably be no also, and that's what the democratic process does.
La nation métisse de l'Alberta envisage maintenant les prochaines étapes, y compris la création du premier gouvernement métisse de l'histoire du pays. L'adoption de la nouvelle constitution permettra à la nation métisse de l'Alberta de former un gouvernement et d'engager un dialogue de gouvernement à gouvernement avec les gouvernements fédéral et provincial. Les premières élections pourraient se produire aussitôt qu'en automne 2023.
Right now, it's transition time. Won't be as effective as it should be, but after that's done, I'm sure it'll be a lot of things that we can work on and do better for Region 1. So that's what I'm looking forward to.
L'autodétermination des Métis remonte à 137 ans, alors que Louis Riel avait entamé les démarches avant d'être finalement condamné à mort en 1885. James Cardinal y voit une étape importante dans le processus d'autodétermination.
We don't build the government for today. We build the government for our grandkids, our great-grandkids, and our great-great-grandkids, and so on and so forth. And it goes on forever that we build this and that they continue to build for the future. And I think, you know, it's so important to also listen to the elders who in the past have ran this Métis Nation. And when they give advice, it's good to sit down and listen to them.
Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.
Bonjour, ici Marie Hillès à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Une nouvelle application mobile s'attaque au gaspillage alimentaire en Alberta. La proposition de l'équipe Too Good To Go d'Edmonton, trop bon pour gaspiller, trouve de plus en plus d'adeptes après une année d'inflation record au pays où le prix des denrées alimentaires n'a cessé de grimper. Trouver donc une solution durable au gaspillage alimentaire permet aussi de faire des économies. Ceci, Too Good To Go l'a compris, en compilant les surplus des invendus des boulangeries, des épiceries et en les refilant aux consommateurs qui en raffolent à prix réduit. L'idée n'est pas neuve, vous retrouverez plusieurs applications du genre dans de nombreuses provinces canadiennes. Depuis le lancement de l'application anti-gaspillage de Too Good To Go, les résidents d'Edmonton auraient déjà collectivement économisé plus de 200 000 $. Les surplus de boulangerie seraient particulièrement appréciés. Éline Coulou, notre collaborateur à Edmonton, en discute avec Nicolas Dott, spécialiste en marketing et en communication à Too Good To Go.
C'est vrai que l'année 2022 a été, il est vrai, très très difficile pour un grand nombre de ménages canadiens, un grand nombre de ménages albertains dans la province, en effet, qui fait face à des demandes records dans ces banques alimentaires-là. Mm-hmm. Et donc, vraiment, ce qu'il faut se rendre compte, Élie, c'est qu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, on va vraiment agir sur trois piliers. On va agir sur le pilier économique. Chaque mois, en jetant de la nourriture, un foyer albertain, un foyer edmontonien, gaspille $148. Donc, il paye une facture de $148. Donc, en limitant notre gaspillage alimentaire, on va aussi être capable de réduire nos dépenses alimentaires. Et dans un contexte où, d'ailleurs, le rapport annuel sur les prix alimentaires révélé en début de semaine établit que l'Alberta va faire face à nouveau à une inflation record en 2023, mais clairement, réduire le gaspillage alimentaire, c'est agir sur le plan économique. Il y a évidemment le plan environnemental. Mmh. On en avait parlé d'ailleurs la dernière fois que tu m'avais invité, Élie. Oui. Le gaspillage alimentaire, c'est un problème environnemental majeur puisque ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en limitant notre gaspillage, on va évidemment aussi agir pour la planète, comme tu l'évoquais en préambule. Mmh. Et enfin, il y a le volet social. Souvent, quand on parle de gaspillage alimentaire, on se rend pas compte, en effet, de l'impact social qu'on peut avoir. Et je pense vraiment que c'est très important de le mentionner là, en cette fin d'année justement, mm-hmm. Où les demandes ont été records dans les banques alimentaires. Il y a une statistique de l'ONU, Élie, que je voudrais mentionner ici, qui est très 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 parlante. Selon l'ONU, si on était capable, collectivement, à l'échelle du monde, de réduire notre gaspillage alimentaire, ne serait-ce que d'un quart.
Oui.
On serait capable de nourrir toute la population du monde. Donc il faut se rendre compte qu'en agissant contre le gaspillage alimentaire, vraiment individuellement, à l'échelle de notre frigidaire, à l'échelle de nos achats d'épicerie, et puis en luttant notamment via l'application Too Good To Go, on va pouvoir agir sur ces trois leviers économiques, environnementaux et sociaux.
Une récente étude a révélé que ce sont les boulangeries qui séduisent le plus les Edmontoniens, puisque 32% des repas ont été sauvés dans ce type de commerce. Comment réagis-tu par rapport à ça?
Oui, tout à fait. Donc vraiment pour donner des chiffres et pour revenir ce que tu viens de dire, Élie, à Edmonton, donc l'application Too Good To Go, juste pour rappeler aux auditeurs, c'est une application qui donc met en relation les consommateurs avec des commerces locaux de bouche qui ont des invendus à la fin de la journée. Donc quand tu parles de commerces locaux, ce sont évidemment des boulangeries comme tu l'évoquais, mais aussi des pâtisseries, des épiceries, des chaînes de restauration rapide, des supermarchés, des dépanneurs. Un très très grand panel de commerces alimentaires sont sur l'application. Et donc depuis notre lancement à Edmonton en mai dernier, ce sont quand même plus de 16 000 repas qui ont été sauvés par les Edmontoniens dans la région, et ce sont plus de 150 commerces alimentaires, Ellie, qui se sont joints au mouvement et qui chaque jour permettent aux Edmontoniens de sauver de la nourriture. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, en effet, depuis ces sept mois de lancement à Edmonton, on a constaté que le type de commerce auprès desquels les Edmontoniens sauvent le plus de nourriture sont en effet les boulangeries, puisque 32%, comme tu l'évoquais, des repas sauvés à date par les Edmontoniens viennent de boulangeries. Donc pour répondre à ta question, il y a vraiment un engouement qui est certain et qui démontre la volonté des Edmontoniens de lutter contre le gaspillage alimentaire et qui fait d'ailleurs écho à un sondage récent de la ville d'Edmonton qui déclare que 72% des Edmontoniens en 2022 ont réduit leur gaspillage alimentaire. Donc vraiment, on est très très heureux à Tougou de voir que on fait face évidemment à un climat inflationniste qui est très très pesant pour les ménages edmontoniens. Mais dans le même temps, il y a des changements d'habitude alimentaires qui sont en ordre de marche. Et on est confiant que ce sont des changements durables et pas du tout juste un changement temporaire, mais plus un pas, je dirais, dans la bonne direction.
Oui, un pas dans la bonne direction, Nicolas Dot. Quelles sont les astuces anti-gaspi que tu pourrais nous proposer ?
On entre en effet en plein dans la période des fêtes, Élie, et je serais ravi justement de donner quelques trucs et astuces aux auditeurs par rapport à cette période des fêtes qui est évidemment... c'est pas très surprenant, mais quand même c'est important de le rappeler, le point culminant du gaspillage alimentaire chaque année au Canada et partout dans le monde. On considère, selon une étude de Zero Waste Canada, qu'un ménage canadien génère en moyenne 25 à 45% de plus de déchets pendant la période des fêtes, et la majorité de ces déchets sont des déchets alimentaires. Donc évidemment, ça nous encourage à peut-être changer les choses sur nos fêtes 2022. Donc quelques petits trucs et astuces qu'on peut conseiller aux auditeurs, c'est de faire une liste, un peu comme à l'année longue, mais faire une liste pour préparer nos repas du temps des fêtes, d'éventuellement répartir aussi notre menu entre les différents invités qui vont venir. Et puis aussi, quelque chose de bon sens que j'aimerais bien rappeler ici, Élie, c'est de demander aux invités de venir avec des beaucoup pour répartir les restes en fin de repas. C'est vraiment du bon sens, mais ça permet évidemment de limiter le gaspillage. Et puis aussi d'avoir enfin, ce brin de créativité après les fêtes, après les repas qu'on a eus. S'il nous reste un petit peu de vin, éventuellement faire du vin chaud. S'il nous reste quelques petits légumes, faire une soupe. Un petit peu de surplus qu'on n'a pas forcément envie de remanger à chaque jour, évidemment congeler. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui vont, en bout de ligne, permettre de réduire notre gaspillage, donc aider la planète, mais aussi réduire nos dépenses, parce qu'en bout de ligne, ça va être de la nourriture qu'on va pouvoir consommer ultérieurement.
Nicolas Dot, spécialiste marketing, communication à Tougou, te remercie pour cet entretien.
Merci beaucoup, Élie.
Ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
C'est l'heure d'ici notre périscope et de faire une virée en version condensée de l'actualité au pays. On commence tout en haut dans les territoires du Nord-Ouest où on nous apprend que le Collège nordique francophone de Yellowknife est maintenant membre de la Fédération franco-ténoise des territoires du Nord-Ouest, le Collège qui, depuis 2012, est le seul établissement d'enseignement au nord du 60e parallèle à offrir des formations professionnelles ou postsecondaires en français, que ce soit en personne ou en ligne. Le conseil d'administration du Collège a pris cette décision lors de sa dernière assemblée générale annuelle le 8 décembre dernier. Notre journaliste dans les territoires du Nord-Ouest, Raphaël Hamel, a recueilli les commentaires de Patrick Arsenault, directeur général du Collège nordique francophone, et de la directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Audrey Fournier.
Oui, effectivement, c'est très positif pour nous. La Fédération franco-ténoise a le mandat territorial de représenter la francophonie au sein des différents paliers de gouvernement et autres organisations. Donc, on est content d'en faire partie maintenant parce que c'est l'interlocuteur désigné. Donc maintenant, on pourrait être représenté de manière adéquate au fur et à mesure qu'on prend une place comme collège postsecondaire accrédité francophone dans les territoires du Nord-Ouest.
C'est une bonne nouvelle. On est très content de les accueillir parmi nos membres. Qu'est-ce que ça représente? La Fédération est porte-parole de la communauté francophone des territoires du Nord-Ouest. Donc, ajouter des membres à notre équipe de membres, disons, c'est être davantage connecté à leurs besoins, c'est mieux saisir c'est quoi les enjeux de l'enseignement postsecondaire puis de la formation continue au territoire du Nord-Ouest. Fait que nous, ça nous permet de rester connectés avec le terrain puis de mieux représenter, mieux les appuyer aussi dans leur démarche auprès des différents paliers gouvernementaux.
On se catapulte au Québec pour rejoindre la ville minière de Fermont, où l'organisme Fermont Spectacle vient de dévoiler sa programmation culturelle d'hiver et du printemps 2023, le FESP, qui compte accueillir quelques grands noms de l'humour et de la musique, parmi eux le chanteur et musicien Jay Scott, mais aussi en programme double Étienne Copé et Simon Carnet, de même que l'humoriste Christine Morancy l'été prochain. Si on prépare la rentrée culturelle 2023 à Fermont, on se projette encore plus loin dans le futur en Nouvelle-Écosse, la province qui sera l'hôte en 2024 du prochain Congrès mondial acadien. Le Congrès mondial acadien 2024 qui promet d'en mettre plein la vue aux milliers de participants qui viendront de partout, souligner la richesse, la vitalité et les nombreuses réalisations du peuple acadien. Rappelons que le CMA est un rassemblement international qui permet de consolider les liens qu'entretiennent les communautés acadiennes de tous les coins du monde en préservant et en célébrant leur langue, leur culture et leur histoire. Von Madden, directrice générale du CMA 2024, en parle au micro de notre journaliste Daniel Aucoin à Chétiquan.
C'est le 7e Congrès mondial acadien. Il y a des gens qui suivent et qui ont participé à tous les congrès mondiaux acadiens. Fait qu'il y a comme un following, là. On a comme des super fans, qu'ils soient dans la région ou qu'ils soient à l'extérieur, dans des régions où il y a des Acadiens ou des amis des Acadiens. Tous les congrès laissent des legs. Et c'est ça qui est la partie vraiment importante dans la planification d'un CMA, pour moi. C'est les legs, c'est qu'est-ce qu'on laisse en arrière. Fait que pour une bonne partie des participants et participantes, c'est à propos des spectacles et de la musique et l'art et les rassemblements. Mais pour le comité organisateur, c'est vraiment à propos qu'est-ce qu'on laisse en arrière, qu'est-ce qui est l'impact sur la communauté. Ça fait que déjà, juste, on a deux bureaux, on a déjà une douzaine d'employés. Ça fait que déjà, on est en train de mettre l'argent dans la communauté, mais aussi l'embauche d'artistes locaux, l'utilisation d'infrastructures. Au niveau économique, ça peut représenter jusqu'à 25 ou 30 millions d'influx là, dans la communauté, là, de dépenses dans la communauté. Fait que c'est très important.
Qu'est-ce qu'on souhaite que les participants, les nombreux visiteurs, vont retenir de leur participation au Congrès mondial acadien 2024 dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse?
On regarde dans notre communauté, puis on dit, ben qu'est-ce qu'on fait bien, puis qu'est-ce qu'on veut présenter. Et c'est cette idée-là de rassemblement, c'est cette idée-là de les gens sont accueillants. On veut que les gens s'amusent bien et ont le goût de retourner, mais on veut aussi qu'ils font des contacts et des liens durables dans la communauté.
La Direction de la santé publique de la Côte-Nord et du Centre intégré de santé et de services sociaux lance un appel à l'aide à l'approche de la période des fêtes. Un avertissement, en fait, qui trouvera certainement écho chez vous et d'un bout à l'autre du pays. Ils disent « Aidez-nous, sinon on va frapper un mur ». C'est ce que nous rapporte notre journaliste Pénélope Clermont, postée au Québec, dans le village de Tête-à-la-Baleine. Composant donc déjà avec des débordements dans les hôpitaux de la région, la santé publique de la Côte-Nord se dit très inquiète. Les autorités anticipent le pire en janvier avec les célébrations de Noël à venir. La propagation de la COVID-19, de l'influenza et du virus respiratoire syncytial dans la région fait feu de tout bois. Le docteur Richard Fachioun, directeur de la santé publique de la Côte-Nord.
La situation est vraiment fragile parce que ça exerce une pression dans nos urgences et on a des éclosions dans certains milieux de vie et dans certains milieux de soins. Pour moi, le message clé, c'est aidez-nous, sinon on risque de frapper un mur. Si vous nous aidez maintenant, ça va nous permettre tous d'offrir des soins à nos voisins, à nos proches qui ont besoin vraiment d'autres soins en dehors des maladies respiratoires. Les hospitalisations risquent d'augmenter au début du mois de janvier. La raison est simple, c'est que durant la période des fêtes, on a des rencontres de famille et c'est des rencontres intergénérationnelles. Il y a les personnes âgées, les jeunes et les bébés aussi. Donc, s'il n'y a pas de mesures supplémentaires, c'est qu'au début du mois de janvier, on risque d'avoir vraiment des enjeux. Nos inquiétudes, c'est par rapport au début du mois de janvier. C'est important qu'on pose des gestes maintenant pour passer de belles périodes des fêtes et qu'au retour de la période des fêtes, il n'y ait pas trop d'enjeux sur le système de soins.
Les hôpitaux de Sept-Îles et de Baie-Comeau présentent régulièrement des taux d'occupation qui dépassent les 200%. Vous connaissez la chanson depuis le temps. La santé publique invite donc la population à demeurer prudente en se tournant vers la vaccination, le lavage des mains et le port du masque dans les endroits publics. Si vous avez des symptômes, si vous avez eu un test positif pour la COVID-19 dans les 10 jours qui précèdent un rassemblement, ben n'y allez pas, implore le docteur Fachioun. Tout récemment, Nouveau-Brunswick, une nouvelle mouture des locaux du Centre des nouveaux arrivants en plein centre-ville de Saint-Jean. Le centre dispose dorénavant d'un espace plus grand, plus fonctionnel, plus accessible et, dit-on, plus accueillant. De nombreuses personnalités politiques ont pris la crémaillère avec les employés du centre, dont la mairesse de Saint-Jean, Donna Reardon, le ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, et la ministre des Affaires autochtones, ministre responsable du développement économique et des petites entreprises, Arlene Dunn. Le ministre de la Francophonie, Glenn Savoie, a aussi pris la parole lors de cette crémaillère pour rappeler l'importance de l'immigration au Nouveau-Brunswick.
L'important, c'est que nous savons que notre chemin de l'avenir, c'est clair que on va passer par là avec l'immigration. L'immigration pour nous autres, c'est clé pour notre croissance, c'est clé pour notre avenir. D'avoir les gens qui veulent vivre et changer les choses, la face, le visage du Nouveau-Brunswick avec leur culture, leurs idées, leurs implications, c'est ça qui est tellement excitant pour moi et plusieurs d'autres ici aujourd'hui. Il va prendre du temps pour nous autres de s'assurer qu'on a les choses en place. Les gouvernements partout le monde avaient les défis comme ça quand la population croît comme le montant qu'on croise ici au Nouveau-Brunswick. Alors, ce n'est pas unique de nous autres, mais c'est un défi nouvel pour nous autres. Il faut qu'on parle aux gens. Il faut qu'on parle avec les immigrants. Qu'est-ce que vous avez besoin de? Qu'est-ce que c'est les défis? Quels sont les problèmes qui vous présentent quand vous déménagez ici? Alors, avec les réponses comme ça, on peut changer les choses, mais ça va prendre malheureusement un peu de temps. Nous avons une vie ici qui est vraiment unique. Les choses qu'on peut offrir aux gens qui avaient des différentes vies et sortes de vie, mais on a ici une vie qui est difficile à comparer avec tout le monde, partout le pays.
Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et puis en terminant, Une bonne nouvelle, vous me direz une vieille nouvelle. La rumba congolaise est entrée le 14 décembre 2021 au Panthéon du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La rumba congolaise ainsi reconnue 5 ans après l'inscription de la rumba cubaine à ce même patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La rumba congolaise est à la fois un genre musical et une danse. Monsieur, il me pardonnera, Chimilenda Kalenga Mwamba, un résident d'Edmonton originaire du Congo-Kinshasa, y voit une fierté pour la culture des deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, de la RDC, de déclarer « Il s'agit d'un patrimoine musical que nous devons partager maintenant. Ce joyau culturel propre aux deux Congos est reconnu pour sa valeur universelle. » Eileen Koulou est à Edmonton, en Alberta. Il en parle avec Chimilenda Mwamba Kalenga.
La rumba congolaise a été reconnue à l'UNESCO comme un patrimoine immatériel, culturel, humain. À l'UNESCO, l'ONU reconnaît cette belle musique, genre de musique émise par les Bantous de l'Afrique centrale, notamment du Congo et de la République Congo-Brazzaville.
Oui.
Musique paradoxale envoyée il y a 4 siècles à Cuba.
Oui.
Elle est rentrée en Afrique. Musique émise par les Noirs esclaves. Et c'est eux qui sont rentrés avec cette musique. Elle est partie dans le monde, l'origine. La rumba congolaise, ce n'est pas simplement une musique. C'est aussi l'économie. C'est aussi un aspect culturel. Ça crée l'emploi. Les gens oublient ça. Ça crée de l'emploi dans le monde. Elle doit s'adapter à la nouvelle musique du monde. Elle doit créer des écoles. C'est une identité culturelle de Noirs, un patrimoine des Africains. Elle doit s'étendre, elle doit s'adapter, elle doit recréer encore l'emploi. C'est une identité de peuple noir bantou de l'Afrique centrale qui envoie dans le monde. Nous sommes là dans le monde.
Oui.
C'est un anti-stress,
oui.
La rumba congolaise.
Rumba Congo de Jean-Pierre Limbor, tiré de l'album African Perfumes. C'est sur ces bonnes nouvelles que se conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Sébastien Caron, Elisabeth Séguin, Eline Koulou, Daniel Aucoin, Raphaël Hamel et Vincent Lavoie. Notre coordonnateur national est Stéphane Bénard. Merci aux artistes qui nous offrent si généreusement leur musique à chaque émission. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci à vous tous et toutes d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous et retrouvez nos journalistes surtout sur canada-info.ca, canada-info.ca. Ils y postent des dizaines de reportages chaque semaine. Nous vous présentons souvent les versions condensées de ces reportages. Restez à l'antenne de l'émission qui suit. À bientôt.
Nouvelle-Écosse, vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLGI, @CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.